séparer de vous par des traits un peu fous. Je n'ose même pas encore vous raconter ce qui m'est arrivé. Enfin bon, ça c'est encore une aventure aujourd'hui. Enfin, ça... les mathématiques, c'est sûr qu'effectivement, il y a de quoi rire. Il y a effectivement de quoi découvrir une certaine poésie également dans les mathématiques. Et je suis sûr que vous allez trouver un ambassadeur extraordinaire de cette discipline dans la personne de votre président. Et puis, quant à la conférence sur les cimetières, si je n'étais pas aussi loin, effectivement, je viendrais bien parce que la mort compte dans l'histoire de l'art. Et après tout, c'est peut-être ce qui nous fait aussi sentir autant en vie. Donc, je crois que c'est important. Et les artistes... Van Gogh le premier a su magnifiquement illustrer ce thème. Alors je vois que vous avez l'esprit large ici en Bourgogne, des mathématiques jusqu'à l'histoire des cimetières, en passant par ce côté de le gaz de schiste. J'espère que vous leur parlerez du fracting. Alors j'ai lu un article sur le fracting. Et Montesquieu. Ah là là, quelle belle programmation. En tout cas, vous avez de la chance. Bien, alors moi, je suis venu vous parler de Van Roor, puisque si vous allez à Amsterdam, ne cherchez pas le musée Van Gogh, parce que vous allez le chercher longtemps. Demandez bien Vincent Van Roor. Et je l'appellerai soit Vincent, soit Van Gogh, pour que nous nous comprenions bien. Nous allons fêter le 30 mars le 160e anniversaire de sa naissance. Il est né en 1853, le 30 mars 1853. Il est né dans le village de Kroetsundert. Nous sommes avec Kroetsundert dans un petit relais. C'était un relais de diligence, si vous voulez, sur la route qui allait de Paris jusqu'à Amsterdam. On est près de la ville de Breda. Cette ville de Breda se trouve dans l'ouest du Brabant septentrional, pour vous placer cette région. Donc nous sommes au sud des Pays-Bas. On peut peut-être, si vous voulez bien, baisser l'intensité lumineuse. Merci. Donc c'est le fils de Théodore Van Gogh, qui était pasteur. Et ici, ce que je vous montre, c'est sa maison natale. C'est le presbytère de Zundert, de Kroetsundert. Et là où il y a le drapeau, c'est la chambre où est né Vincent Van Gogh. Il est né au premier étage, à droite de cette maison. Alors, sa mère s'appelle Anna Cornelia Carbentus. Elle était, elle, d'une origine d'artisans d'art, de relieurs, mais des relieurs qui ont été actifs à la cour de Hollande. Et on peut dire que c'était un milieu, le milieu familial. On le voit souvent dans l'historiographie autour de Vincent Van Gogh, vous savez, on utilise comme ça des thèmes qu'on roule de génération en génération. On dit souvent que le milieu est digne et religieux. Donc ça veut tout dire. Il y a quelque chose, effectivement, déjà d'une culture assez classique à cette époque-là. Alors, ce que l'on sait sur la vie intime de la famille, il y a donc, on voit ici les parents, le père et la mère. Ici, vous avez Vincent et on connaît son frère Théodore, Théo et Vincent auront une correspondance tout au long de leur vie, et d'ailleurs cette correspondance sera à la base de toute une étude. Il a une sœur également, Elisabeth, dont il se sent très proche, et Elisabeth dira d'ailleurs, non seulement ses proches étaient pour lui des étrangers, mais il était encore plus étranger à lui-même. Ce qui veut dire que probablement Vincent, dans l'univers de cette famille, dans cette fratrie, avait quand même une singularité, un comportement tout à fait particulier. Il faut bien dire que, comme ça arriva également à d'autres artistes, je n'en citerai qu'un, Dali par exemple, il avait eu la malchance de perdre un frère aîné qui est mort avant sa naissance et qui portait également le prénom de Vincent. C'était, vous le savez bien, une coutume qui se faisait beaucoup encore jusqu'au début de notre XXe siècle. Et c'était une habitude, lorsqu'un enfant disparaissait, de redonner cette identité à un autre. Alors, faut-il voir aussi dans cette, je dirais, faille identitaire, dans cette complexité identitaire, peut-être une sorte de racine de cette souffrance qui fera peut-être la racine de sa différence et la racine de son originalité. Enfin, ne tardons pas trop sur cette affaire, mais je pense qu'il est important de tout de même de le rappeler. Alors, à 16 ans, il doit travailler. Je vous ai dit, c'est un milieu digne et religieux, mais pour autant, c'est un milieu qui n'est pas riche. Et il va obtenir un emploi dans une galerie d'art de La Haye, où il sera vendeur. C'est un emploi pour une firme assez importante, la firme Goupil, qui d'ailleurs a des succursales un peu partout dans le monde, à Londres, à Paris, à Bruxelles. Et son frère, Théo, sera d'ailleurs associé, comme lui, à cette firme. Alors, il sera transféré à Bruxelles et puis à Londres, où à Londres, il va vivre des déconvenues, des échecs, des déceptions sentimentales. Il va d'ailleurs fréquenter des milieux assez sordides de la périphérie lyonnaise, de la périphérie de Londres. Et ce qui, je dirais, sera un peu sa période bleue, c'est-à-dire la période bleue, en anticipant ce qu'arrivera à Picasso, c'est un peu quand l'artiste ouvre les yeux et qu'il se rend compte que son âme est huméfiée par des coups qui, effectivement, sont marqués par cette misère sociale qui l'entoure. Alors, cette formation humaine va être complété, va être en dialogue avec une formation artistique. Quand il est du côté de Paris, il va découvrir l'œuvre d'un grand maître du paysage, il s'agit de Corot. Et on ne dira jamais assez l'influence de deux grands maîtres français sur la genèse de l'œuvre de Vincent Van Gogh. Il s'agit de Corot, de cette magnifique école de Barbizon, qui va aussi être une sorte de terreau fertile pour l'école de l'impressionnisme français, et également un autre grand maître, Jean-François Millet, qui, je dirais, est le long héritier d'une tradition où la peinture française s'attache à la vie la plus humble, à la vie paysanne, et déjà, dans le XVIIe siècle, les frères Lenain avaient fait parler d'eux en montrant les intérieurs de ces pauvres familles paysannes. Jean-François Millet va reprendre, si vous voulez, le flambeau au XIXe siècle. Et ces deux maîtres vont particulièrement l'inspirer. Je vous mets, si vous voulez bien, pour revoir cet horizon culturel, eh bien, quelques tableaux dans l'œil pour vous faire à tout cela. Alors, par exemple, ce tableau, le premier paysage de Corot était au Metropolitan de New York, alors que celui-ci, La mère et l'enfant, est un travail qui est au musée de Cincinnati. C'est un travail qui date des années 1845. Ou encore celui-ci, qui est tout à fait magnifique, qui est au Louvre. C'est un petit tableau de 30 cm sur 20. Je vais l'agrandir pour vous, regardez. Alors, c'est un tableau qui s'appelle « La précaution maternelle ». C'est bien dit. Alors, on voit la petite fille qui est très attentive, justement, au petit frère, ici. Alors, c'est un tableau qui se trouve au Louvre. Mais, bien sûr, il y a, dans les célébrités incontournables de Jean-François Millet, il y a l'Angélus et il y a les glaneuses. Donc il y a vraiment ces deux tableaux qui sont extrêmement célèbres et il me semble que la thématique ici de la pomme de terre est importante. Alors, Dali reprendra ce sujet, Van Gogh y a été particulièrement intéressé également et on sait par des analyses spectrographiques, si vous voulez, qu'il y a sous le panier de pommes de terre un petit cercueil d'enfant. Ce qui veut dire que cette sorte de d'émotions très endeuillées que les parents dont le corps voûté, vous voyez, dans cette sorte de prière, de supplique. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui tire vers cette notion du deuil, mais enfin, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, prier devant un panier de pommes de terre. Et on se rend compte qu'il y a effectivement, à l'époque de Millet, il y a eu un changement. On ne sait pas exactement pour quelle raison, probablement la commande qu'il y a. Et ils ont mis ce panier de pommes de terre, ce qui fait que c'est devenu une sorte d'ode à la pauvreté, à la difficulté de ces campagnes françaises qui ont effectivement durement travaillé pour gagner leur pitance. Et probablement que Vincent, dans sa grande sensibilité, a ressenti qu'il y avait une sorte d'attitude dans ce casting plébéien, dans cette attitude de ce couple paysan qui finalement était comme si nous étions face à la mort d'un enfant. Donc il n'en fallait pas tant, je pense, pour activer, agiter sa grande sensibilité, son émotion, et voir tout le travail autour des cultivateurs que l'on verra dans la première partie de son œuvre. Et peut-être également que ce que nous pouvons voir à travers ce magnifique travail qui est conservé à Orsay également, comme l'Angélus, il date de 1,55, celui-ci de 1857, on est sur des tableaux d'un mètre sur 85 à peu près, et il faut bien reconnaître à quel point ici, c'est un peu comme si Poussin et Caravage s'étaient donné la main pour peindre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un héritage de la composition des corps qui nous vient directement de l'Antiquité, de la Haute Antiquité, avec ce déploiement du corps dans l'espace, mais en même temps, le casting, le choix des personnages n'est plus, si vous voulez, fait de personnages héroïques de l'Antiquité, mais bel et bien de cette paysannerie du monde français. Donc c'est pour ça que je pense, et j'insiste, sur le rôle marquant, cette racine culturelle, qu'est le travail de ce grand français sur l'œuvre de Van Gogh. Alors, on va voir qu'il va directement copier d'ailleurs certaines œuvres, je pense à celle-ci. C'est un travail de Vincent Van Gogh qui date de 1889, mais qui est au musée Van Gogh d'Amsterdam, mais qui a été copié d'une œuvre de Millet. C'est le même cas ici pour cette tonte qui est également au musée d'Amsterdam, et on voit bien comment le thème de Millet va être finalement repris par la ligne sinueuse, fragile, on pourrait presque dire tremblante, hein. Il y a quelque chose de tout à fait émouvant dans la façon de voir vibrer cette ligne. Alors, très vite, on va se retrouver dès les années 1890 avec ce style d'œuvre. On reconnaît le monde de la vie paysanne. C'est le père qui, rentrant des champs, eh bien, vient tendre les bras à son petit, qui est ici en train de faire ses premiers pas. D'ailleurs, ce tableau qui se trouve au Metropolitan Museum de New York, eh bien, représente les premiers pas d'un enfant. Vous voyez qu'il y a une sorte d'impesto. J'avais utilisé ce terme d'impesto quand je vous ai parlé de l'œuvre de Rembrandt. Je vous avais dit que c'était le relief que prenait la peinture pour donner une sorte de surcharge émotive, comme si la matière, comme si le peintre se faisait matiériste, et que le relief de la peinture comptait également autant, presque, je dirais, que le sujet représenté. Alors, Van Gogh va se désintéresser progressivement de son travail au retour de l'Angleterre. On est dans les années 1876, il va remettre sa démission, et alors il va être pris par une sorte de fièvre mystique assez dévorante. Je crois que surtout, il veut marcher sur les pas de papa, mais il n'en a pas du tout les capacités. Son père le sait, mais ne l'en décourage pas. Il va suivre des études théologiques pour être pasteur, et comme on se rend compte qu'il a une sensibilité quand même extrêmement vive, on préfère, si vous voulez, lui faire faire une sorte d'apprentissage. Difficile d'être apprenti pasteur, mais enfin, on essaye de le tester sur une région qui est quand même un peu difficile, c'est le Borinage. Le Borinage, c'est une sous-région de la Belgique, qui est située en région Wallonne, qui est dans la province du Hainaut, à l'ouest, au sud-ouest de la ville de Mons. Donc on est dans cette région-là, région qui à l'époque est particulièrement pauvre et très difficile sur le plan social. Alors simplement, je voulais quand même évoquer ces amours qu'il a pu rencontrer avec une certaine fille, bon, mère d'un enfant, elle-même un peu dans des circuits peu fréquentable en tout cas aux yeux de Théodore Van Gogh, le père de Vincent, et il a probablement, en fréquentant cette jeune femme, il l'a associée à la peine. Et il dira d'ailleurs, comment se peut-il qu'une femme soit seule sur terre? Vous voyez, ça marque bien la sensibilité déjà de ce jeune poète. Hein. Il n'est pas qu'un peintre, Vincent Van Gogh, c'est aussi un grand poète. Alors, voilà le type d'œuvre que nous avons lorsqu'il va être dans ce Borinage. Et c'est ce qu'on appelle la période donc, où il fait tous ces mangeurs de pommes de terre qui sont principalement conservés au musée d'Amsterdam. Alors, on peut dire qu'il renoue presque avec le réalisme de Frans Hals. Vous voyez, ce réalisme que le siècle d'or avait voulu, cette sorte d'aspect sombre également. Et c'est quelque chose d'assez intéressant que l'on voit ici. Donc, c'est une œuvre de 1885 où on le voit encore en 85, on voit qu'il représente ceux qui plantent les pommes de terre. On voit également cette paysanne qui est en train de préparer le repas. C'est une œuvre qui se trouve au Metropolitan de New York et qui date de 1885. On voit également qu'il va au-delà de certaines conventions picturales que son temps lui autorisait. Très vite, on va être dans cette sorte d'expressionnisme où la peinture va elle-même être saisissante. Souvenez-vous qu'on est ici dans un monde où c'est l'impressionnisme qui domine, que les Pissarro, Degas, Manet, Monet, Sisley et grand autres de l'école de l'impressionnisme parisien dominent la vie esthétique et ils ne sont pas prêts à voir arriver ces blasphèmes par rapport aux conventions que l'impressionnisme a mis en place, blasphème au point de vue de la couleur, où on sent très bien que, regardez, ce jaune posé à côté de ce bleu, c'est quelque chose qui, pour un impressionniste, devient criard. Ces deux couleurs forment un verrou chromatique avec le rouge orangé de la brique ou des lèvres, et ces trois primaires sont violentes et à la limite de la vulgarité pour un impressionniste. Quant à la touche, à la facture, au trait, il semble effectivement, sans peu de retenue, un dessin pour un impressionniste maladroit, quelque chose, et Van Gogh aura bien du mal à faire passer ce style, même si aujourd'hui il fait partie des artistes qui nous soulèvent l'âme, parce qu'il y a quelque chose qui devient très empathique, épidermique, je dirais, tellement il a su, et dans la couleur, et dans le trait, eh bien, je dirais, forcer cette rencontre, oui, très empathique avec le sujet. Alors, il n'a peur d'aucun détournement. On voit très bien qu'ici l'anatomie est très peu fiable, le bras est très allongé, mais enfin peu importe, ce qui compte, c'est ce visage avec cette précision que l'on, avec laquelle on voit cette femme peler sa pomme de terre. Je crois qu'il y a effectivement une liberté que les impressionnistes ont eue face aux écoles les plus classiques et notamment face à l'académisme. Et lorsque l'impressionnisme a vieilli, lorsque l'impressionnisme est allé au-delà de cette maturité et qu'il dominait l'espace artistique français, il ne pardonneront pas, si vous voulez, à ces jeunes, de futurs expressionnistes, eh bien, de venir mettre à mal leur fondation, mettre à mal leur royaume qu'ils avaient, si vous voulez, forgé avec une certaine opiniâtreté, un certain courage, il faut bien le reconnaître, au mi-temps du 19e siècle. Mais enfin, voilà un Van Gogh bien isolé et par sa famille qui ne le sent pas prêt pour aller sur cette voie de la prédication et cette voie pastorale, et par le monde artistique qui ne lui connaît aucune reconnaissance réelle. Un homme à la sensibilité qui le place au bord de l'exclusion. Déjà très jeune homme, eh bien, il est dans cette incompréhension et cette difficile rencontre avec le monde. Regardez ce visage, c'est une œuvre qui montre combien Van Gogh est sensible aux muscles paussiers, le muscle sourcilier qui abrite ce regard crispé, pourrait-on dire, avec ce pyramidal tendu qui montre à quel point la concentration est presque sous-jacente, une colère qui est en train de gronder de façon très sourde à l'intérieur de cette personnalité, le masséter très creusé puis très en force au niveau de l'angle mandibulaire, ou encore le carré du menton qui est relevé avec ce pincement au niveau des commissures des lèvres qui marque peut-être cette sorte de désaccord, et le canin, ici, le muscle au-dessus des canines, qui est relevé, qui est le muscle de la souffrance, et que Van Gogh ne manque pas. Vous voyez également, au point de vue de la narine, il y a quelque chose qui semble pincer dans la façon dont l'air, ici, ne peut plus passer. Hein. Il y a quelque chose de, finalement, très... si on a vu un bras s'allonger de façon presque maniériste. Ici, on se rend compte que Van Gogh regarde le monde et est un expert, un enquêteur de la souffrance du genre humain qu'il traduit assez volontiers dans les muscles paussiers et dans les visages. On a de la chance. Alors, ce n'est pas celui-ci, mais nous avons un très beau tableau au musée de Lyon, musée où je vous attends d'ailleurs. J'espère qu'un jour, vous m'enverrez à nouveau un convoi de Bourguignons et de Chalonnais pour visiter cette belle collection avec moi. Il y a une nouveauté, maintenant j'ai des petits appareils pour ne plus être obligé de bramer dans les musées. Cette paysanne au châle vert de 1885 montre également que nous sommes dans une sorte de fusion, je vais me faire comprendre, par la génération précédente des peintres orientalistes. Quand les peintres orientalistes partaient sur des terres, le moindre bédouin, la moindre femme voilée devenait une sorte de prétexte pour représenter les femmes, les patriarches et les héroïnes de l'Ancien Testament. De la même façon, je crois que Van Gogh promène son œil solitaire dans ce monde du borinage où le monde paysan finalement se révèle à lui comme ses patriarches et ses femmes, ses saintes femmes, si vous voulez, de l'univers biblique. Je vous rappelle qu'il vient pour être cet apprenti pasteur dans le borinage. Ça ne va pas bien marcher, hein. Parce qu'il fait des prêches tellement endiablées tellement enflammé qu'il fout la trouille à tout le monde. Et que les pauvres gens qui viennent chercher un secours, une réflexion, se retrouvent en se disant « qu'est-ce que c'est que ce timbré ?» Et lui essaye de faire de son mieux. Mais vous savez, quand on conjugue sa jeune poésie, sa jeune souffrance, et puis son énergie, il y avait de quoi effectivement peut-être effrayer un cultivateur de pommes de terre. Donc, c'est un échec, le borinage. Mais enfin, ce que nous devons retenir, c'est que, un, il a quand même une dextérité assez habile pour reproduire l'âme humaine, finalement, à travers ses expressions, cette façon de peindre, ou même la précision de certains traits, et cette fusion qu'il y a entre la spiritualité et son regard social. Et ça, je crois que c'est important, parce que déjà Millet l'a exprimé avant lui, et je pense qu'il est un continuateur. Alors, il a aussi un regard assez... Je préférerais avoir ça sur mes paquets de cigarettes que certaines photos absolument atroces qui nous découragent parfois de se mettre à table. Mais enfin, là aussi, un crâne qui est en train de fumer. Bon, ça montre un certain univers. C'est une œuvre de 32 sur 24. Elle est assez connue. Elle est au musée. Elle est conservée au musée d'Anvers. Et c'est une œuvre qui date de 1886. Alors, à ce moment-là, on va voir que Vincent Van Gogh va aussi non pas s'intéresser simplement aux visages et aux êtres, mais également beaucoup aux objets. Je vous rappelle que les objets sont porteurs d'une certaine poésie. Hein. Lamartine disait « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et la force d'aimer ?» Je vois que vous connaissez bien vos classiques et que vous n'avez pas acheté vos Lagardère et Michard. Je vous félicite. C'est très bien. Alors, bien sûr, qu'est-ce que l'on va retrouver dans l'univers des natures mortes? Ce sont des œuvres qui datent de 85-87, si vous voulez. On va retrouver une Bible ouverte, par exemple. Là encore, on retrouve les pommes de terre. Mais je dirais qu'il donne une telle présence à cette corbeille d'osier que, d'ailleurs, dans l'histoire ancienne de la peinture, souvent l'osier de la corbeille de l'enfant était une anticipation visuelle du tressage de la couronne d'épines. C'est comme ça que les maîtres anciens, dans l'histoire de l'art, créaient cette sorte d'alpha et d'oméga. Un berceau en osier, tressé de façon assez aiguë, eh bien, donnait à l'œil la possibilité d'anticiper le Golgotha et la couronne d'épines. Faut-il le voir aussi sur ce genre de travail? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une personnalité de ces objets qui montre à quel point il sait théâtraliser ces natures mortes. Alors, que ce soit ces différents bouquets de pensées, je ne suis pas très connaisseur des fleurs, mais je crois que ce sont des pensées, ou bien encore ce Martin Pêcheur. Alors là, le Martin Pêcheur, c'est arrivé déjà par la connaissance que les peintres, les artistes, les poètes ont de la culture asiatique au XIXe siècle, parce que les chinoiseries sont à la mode, et le Martin Pêcheur a pour habitude de voler en couple, et c'est un symbole également de la fidélité. Alors, vous voyez que ce n'est pas pour rien s'il y a la représentation d'un Martin Pêcheur, que ce soit peut-être sur son isolement, il n'a pas de petit ami, il est relativement seul, il est isolé également du côté de sa famille, dans son travail, pas de reconnaissance sur le plan religieux, pas de reconnaissance sur le plan artistique, c'est la galère. C'est un garçon qui souffre. Alors, on peut comprendre effectivement tous ces tourments. Et puis, je me permets de vous lire pour vous montrer ces quatre tableaux. Un texte de Martin Heidegger sur les chaussures de Van Gogh. On n'attendait pas de la part de ce grand philosophe un texte sur les chaussures de Van Gogh, qui est extrait de Chemin qui ne mène nulle part. Et c'est un texte qui illustre l'intérêt du philosophe allemand pour la poésie comme moyen d'accéder à la vérité, si vous voulez. Alors, dans l'obscurité, dans l'obscure intimité du creux de la chaussure, est inscrite la fatigue des pas du laboureur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier, est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs. Le long des sillons, toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre, grasse et humide. Par-dessous les semelles, s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. À travers ses chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Vous voyez, quand les philosophes veulent bien écrire, ils y arrivent. Hein. C'est pas très fréquent, mais enfin, de temps en temps, quand même, il faut un effort. Enfin, il faut dire qu'un philosophe regardant un tableau de Van Gogh, forcément, ça ne peut que lui faire du bien. Alors, je vous montre ces quelques tableaux, parce que il me semble assez intéressant pour comprendre ce qu'Heidegger voulait dire, comment l'objet, l'artiste, le poète prête une humanité finalement à l'objet. Regardez ces vibrations, et puis aussi ce qui est étonnant peut-être, c'est ces magnifiques associations de couleurs primaires et complémentaires, ces bleus qui viennent réjouir, qui viennent faire briller les orangés, et ça donne une plasticité, l'œil est prêt pour recevoir ce rapport de primaire et de complémentaire, et ça donne quelque chose de plus vibratoire encore que ce qu'il paraît sur la toile. Bon, une sorte de halo, comme une auréole. Mais qui aurait pensé avant lui mettre une auréole à un soulier? Voyez. Puis, vous voyez qu'il y a des renversements qui sont bien douloureux. Hein. Là encore, l'orange de la semelle, le bleu, tout le travail ici. Et puis le cuir qui montre aussi le côté vivant de cette chaussure. Alors, à ces chaussures, il y a également une autre série. C'est les différents tournesols coupés. Ceux-ci datent de 1887 et sont au Metropolitan Museum de New York. Bon, je suis pas très très, j'ai pas le temps d'être très sensible quand je suis en, là j'étais hier soir, vous voyez, je suis un peu jet-lagué, j'étais hier soir au Mexique, donc forcément j'ai le décalage. Et il faut dire qu'il fait un peu frais en Bourgogne, à côté de Palenque, Monte Albán ou Mexico. Mais je me rendais compte que je n'ai pas le temps de me laisser aller à la sensibilité, encore moins à la sensiblerie quand vous êtes avec des groupes, des publics. Puis parfois, vous êtes pris à la gorge, coincé, l'émotion monte, vos notes vous tombent des mains, et puis plus personne n'existe d'autre que vous et l'œuvre. Et ça m'a fait le coup, effectivement, au Métropolitain, devant les tournesols de Van Gogh. Je ne peux pas les regarder en face, c'est impossible. Pourquoi suis-je sensible au tournesol? Je n'en sais rien. Je ne suis pas venu pour faire ma thérapie ici parmi vous. Enfin, toujours un peu, hein. Quand on est conférencier, il faut être un peu malade. Hein. D'ailleurs, bienvenue, monsieur le conférencier en mathématiques. Hein. Bienvenue parmi cette grande famille de fous que nous sommes. Probablement qu'il y a... Enfin, je me posais quand même des questions. Je me suis dit, oublions la médiation superbe de Van Gogh, et je me suis mis à regarder et à penser aux souvenirs de tournesol que j'avais. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a retourné l'âme, parce que quand on voit ces fleurs qui se dressent avec cette énergie extraordinaire, qui suivent le soleil avec ses alourdies par toutes ces graines, et puis le soir tombant qui retombe, qu'est-ce que vous voulez? C'est un miroir, c'est un véritable miroir. On se reconnaît du matin au soir, du début de nos vies jusqu'à la fin. Enfin, nous ne sommes que de pauvres petits tournesols. Hein. Alors, quand on voit ces tournesols coupés, bon, ben, c'est... Effectivement, et puis le travail avec... Il a une maturité, vous voyez, en 87, regardez cette... C'est terrible, hein. C'est... Bon, allez, il faut... Il faut passer à autre chose, mais c'est quand même... Parce que je pense que le tournesol est photophore, si vous voulez. Il est porteur de lumière, symboliquement. Alors, voir des tournesols coupés, ben, c'est pas simple. Ou qu'il s'agite dans des pots, ou qu'il s'agite dans des bouquets savamment composés, mais montrer une forme, montrer savamment la désorganisation... C'est pas rien. Et puis j'ai l'impression que, bien qu'il soit coupé, il s'enflamme encore. Comme si les parties craquantes, les parties qui se dessèchent de la fleur, se transformaient en flammes. Et je crois que c'est ce qui, personnellement, arrive à m'émouvoir le plus. Bon, j'arrête, vous allez croire que je suis dingue, après vous n'allez plus m'inviter à venir vous parler. Donc. Mais enfin, ce qui me, vous voyez, ici, c'est incroyable, cet enflammement. On n'est plus devant des tournesols, on est presque dans les enfers. Il y a quelque chose qui nous rappelle certains tableaux du monde ancien, de la peinture ancienne, où ces flammes s'agitent, et on sent... Le tourment, et ça c'est une gloire de Van Gogh, c'est un des points forts de Van Gogh, c'est que avec un rien, il arrive à créer ces crises empathiques dont nous avons également besoin. Parce qu'on a besoin de se sentir en communion, nous sommes faits pour communier, nous sommes faits pour rentrer en communion avec le monde, avec les autres, avec les êtres. Et lui... Ben, ne cesse, si vous voulez, de nous appeler dans sa peinture. Et c'est vrai que c'est difficile d'échapper à un Van Gogh. Hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me disait oh, « Van Gogh, pff, je vois pas. Hein. » C'est vrai qu'il y a toujours un moment, peut-être pas toutes les œuvres, mais il y a toujours un moment où Van Gogh arrive à vous prendre à la gorge. Et puis, sans parler de sa technique picturale qui fait qu'il arrive à exploiter sa page, sa toile, si vous voulez, avec une habileté remarquable. On sent très bien que des années d'histoire de l'art se cachent derrière ces tournesols et qu'il y a aussi une exploitation du mouvement qui a été pensé par les grands maîtres italiens, par les grands maîtres hollandais, de ces corps qui se déployaient dans l'espace pictural et qu'il donne un rôle, une aventure scénique également dans la mise en page à ces fleurs. Alors, peut-être que vous reconnaissez, le précédent est au musée d'Otterlo. D'ailleurs, je vous remercie puisque vous êtes un certain nombre à me faire confiance pour venir du côté d'Amsterdam et de ce musée. Donc, nous aurons la chance également de voir ces belles peintures de Van Gogh. Donc, elles datent de 1887, de 88 pour celles-ci. Celles-ci ne sont pas à Otterlo, elles sont à la Pinakothek de Munich. Mais là encore, quel combat, cette façon, vous voyez, d'agiter dans tous les sens ces symboles de lumière. Celle-ci est un peu moins connue, elle est pourtant tout à fait remarquable. Ces tournesols qui sont conservés, elles datent de la même année, de 88. Alors l'autre, le titre, c'est 12 tournesols, celle-ci 15 tournesols, elle est conservée à la Galerie nationale de Londres. Et là encore, on voit qu'il y a un travail. Vous voyez, regardez le... Je n'ai jamais emmené un plasticien devant un Van Gogh sans qu'il reste subjugué. Et vous savez, les artistes ne sont pas très, très cléments les uns avec les autres. Et même s'il s'agit d'un artiste aussi célèbre que Van Gogh, hein, s'il n'aime pas, il n'aime pas. Et j'ai toujours vu des moments assez extraordinaires de reconnaissance, de remerciement, même des plus jeunes plasticiens, en se disant, mon Dieu, mais quelle école, ce qu'il a à nous apprendre, comme il est un maître pour nous. C'est même troublant de voir à quel point les plus jeunes encore aujourd'hui peuvent se ressourcer et se nourrir de la façon de peindre de Van Gogh. Alors nous pourrions, vous voyez, hein, nous pencher sur chaque fleur, et chaque fleur a une identité bien, bien particulière. Alors, il va quitter pour des raisons bien simples, c'est que son père, à un moment donné, va lui couper les vivres. Il va se disputer assez violemment avec son père. Son père, ne voyant pas qu'il réussissait sur ses pas, bon, ben, voyant qu'il avait quitté son travail, finit par se désespérer de ce fils qu'il pense très vite être un bon à rien. C'est vrai que la poésie n'est pas toujours reconnue, d'ailleurs, au sein de la famille. Hein. Donc, je vous le disais, il va être malmené. Et heureusement, il va avoir son frère Théo, qui lui, alors, c'est le gars qui marche bien de la famille, qui va avoir sa carrière du côté de Paris, qui va avoir ce poste assez important dans le milieu de l'art, mais alors un art où l'on vend de l'impressionnisme, où on vend de l'académie, ou de l'impressionnisme, c'est-à-dire ce sont des firmes. La firme Goupil était une firme qui vendait un art qui n'était pas controversé, un art qui était assuré, un art qui était porteur sur le marché. Et Théo ne va pas se battre pour l'œuvre de son frère. Il ne va pas, alors je pense qu'à un moment donné, il va avoir peur pour sa propre carrière, et il ne va pas vouloir se commettre. C'est pas toujours facile de placer le vôtre. Imaginez-vous à la place de Théo, hein, vous êtes responsable d'une boîte du marché de l'art, vous avez un frère qui peint, bon, personne ne reconnaît vraiment. Si lui, personnellement, sait la poésie, sait le talent de son frère, il sait que son siècle, son temps, n'en est pas encore là. Et ça a dû être également très cruel pour un frère de devoir, eh bien, mettre de côté, finalement, le talent de ce frère aîné. Alors, il va lui présenter d'ailleurs de nombreux artistes. On verra qu'il fréquentera quelques écoles, l'école Cormon d'ailleurs, où il rencontrera Toulouse-Lautrec. On ne sait pas à quel point Toulouse-Lautrec est un artiste très important, non seulement pour les impressionnistes. Je pense à certains artistes comme Degas, par exemple, qui a rencontré Lautrec et qui était très important pour lui. Lautrec avait l'incroyable faculté de fréquenter autant les grands mécènes, les grands salons parisiens de l'époque, que le monde médical, parce qu'il avait des cousins chirurgiens, que le monde de l'opéra, parce qu'il y avait des voisins et des amis chanteurs ou bassons ou autres, que les bordels. Et c'est assez incroyable de voir à quel point Toulouse-Lautrec a été un agent qui a diffusé, si vous voulez, des réseaux autour des artistes qu'il a rencontré. Et c'est vrai que là aussi, ça a été une rencontre assez intéressante. Alors, il y a un artiste qui est également un peu isolé, va-t-on dire, un artiste qui a pris des cours chez le grand maître de la peinture à l'époque, c'est Pissarro, qui dispense des cours, cet artiste isolé, c'est Paul Gauguin. Paul Gauguin est un homme qui a eu une première vie bourgeoise. Il était lui-même d'une noble et digne ascendance. Hein, et il avait des vice-rois du Pérou dans ses ancêtres. Il était lui-même le descendant d'une sorte de femme incroyable. Redonnez-moi son nom, je l'ai oublié là. Flora Tristan, merci bien. C'était sa grand-mère. Son père était un journaliste qui meurt très jeune. Et finalement, grâce à des réseaux d'amis de sa mère, il va se lancer dans l'assurance et plutôt sur des marchés, oui, sur le monde de l'assurance. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Il a une vraie vie bourgeoise. Son épouse danoise, Metgade, va lui donner de nombreux enfants. Tout se passe bien. Et c'est en peintre, presque du dimanche, qu'il va voir Pissarro. D'ailleurs, quand Cézanne passe chez Pissarro, il lui dit, mais qu'est-ce que fiche bourgeois ici, là, qui n'a rien à faire ici, ce peintre du dimanche? Bon, c'est Cézanne. Hein. Cézanne, il n'est pas très commode avec les autres peintres. Et Paul Gauguin, qui a une forte personnalité, fréquentait aussi à l'époque un peu Pont-Aven, et a vraiment cette âme de leader. Il a une sorte d'âme de leader. Et quand il va fréquenter Théo Van Gogh pour lui demander de vendre sa peinture, Théo Van Gogh ne peut rien faire pour lui, mais lui dit, ben, par contre, j'ai un frère qui est peintre, qui ne va pas très très bien, qui va partir dans le sud de la France, du côté d'Arles, et il serait bien pour lui d'avoir un compagnon pour que vous puissiez peut-être, je sais pas, monter un atelier ensemble. Ce qui veut dire que Théo, de façon assez discrète, a non seulement financé la peinture et a financé la vie finalement de son frère Vincent, mais également tous les à côté, à tel point d'ailleurs que quand il va se marier, et c'est très bien vu et très bien dit par le film de Piala, qui fera dire d'ailleurs, vous savez, Piala avec Jacques Dutronc qui joue le rôle de Van Gogh, où lorsque Théo se marie, sa femme dit, l'épouse de Théo dit à son mari, à Théo, oui, ben toi, de toute façon, avec ton frère, t'as pas besoin d'une danseuse. Donc ça veut tout dire, c'est qu'il l'entretenait, et finalement, eh bien, c'était une relation assez forte qui était toujours entretenue par ces très nombreuses lettres où l'on voit toute la sensibilité de ce frère. Alors, il va partir dans le sud. Là, on voit, par exemple, c'est au musée d'Amsterdam en 1888. C'est un tableau qui représente la plaine de la Croix. C'est un tableau, oui, de 88 qui fait un peu plus de 90 sur 70. Et on dit souvent que c'est à ce moment-là, dans la descente près d'Arles, qu'il va avoir une couleur qui va devenir explosive. En gros, que le pré-fauve en lui va naître. Alors, le fauvisme, on l'autorise plutôt quand on parle de Matisse, Vlaminck, de Rhin. Mais n'allez pas chercher plus loin. Van Gogh est aussi à l'origine de ces couleurs explosives. Et bien souvent, on pense que c'est Arles qui va mettre le feu à sa peinture. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que depuis pas mal de temps, Van Gogh souffre de certains symptômes et notamment des études ont évoqué un syndrome de Pica. Alors le syndrome de Pica, c'est, vous connaissez le syndrome de Pica, c'est quand les enfants se mettent à avaler les capuchons dans les écoles, les pièces de monnaie ou autres, quand ils mangent un peu tout ce qu'il ne faut pas se manger. Hein, et lui avait tendance à mordiller ses chiffons, à avaler, à mordiller les pinceaux, à manger aussi un peu tout ce qu'il ne fallait pas. Ce qui lui provoquait des douleurs estomacales et qui était soigné à l'époque. Alors, on le sait plus tard, quand il fréquentera le docteur Gachet, il sera soigné avec de la digitale. Et la digitale troublait la vision, en tout cas, la digitale forçait certaines couleurs, notamment le jaune. Et on pense qu'il y a, non seulement, c'est vrai, la lumière du Sud a toujours été réputée pour être une lumière très jaune, une lumière très chaleureuse, très, très explosive, alors que la lumière du Nord est une lumière très blanche. C'est celle que les peintres recherchent. Un atelier, lorsqu'un peintre cherche un atelier, il cherche un atelier avec une lumière du Nord pour avoir la lumière la plus blanche possible. Et donc ce mélange, si vous voulez, à la fois de souffrance, de médecine et de territoire, va probablement provoquer cette incroyable surprise et ce jaillissement de couleurs. Alors, regardez, pensez à ce que nous avons dit sur les mangeurs de pommes de terre, pensez à ce que nous avons dit sur les chaussures ou sur les tournesols, pensez à ce que nous venons de dire sur cette explosion de couleurs due à la fois à la maladie et à cette chaleur de la lumière en Arles. Et quand on voit ce type de tableau, alors ces arbres morts au soleil sont très humanisés. Je ne peux pas, quand je regarde ça, toutes les fois que je vois ces branches s'élever vers le ciel, je pense toujours à la sculpture de Bernin qui est conservée au nord de Rome, à la Villa Borghese, l'enlèvement, lorsque Apollon touche Daphné et que Daphné se transforme en laurier. Il me semble qu'ici, les arbres morts cachent des métamorphoses de la souffrance humaine. Si Vincent s'est arrêté devant cette lumière qui est proche de l'évanouissement, nous sommes dans une lumière qui enflamme totalement ce paysage et qui semble avoir d'ailleurs complètement enflammé jusqu'à la carbonisation ces arbres bleutés d'un noir bleuté et puis ces branches qui semblent effectivement être la gesticulation d'une souffrance très humaine. Vous voyez à quel point le paysage va effectivement lui permettre de nous raconter, nous conter les souffrances et les tourments de son âme. Le poète est celui qui sait se raconter à travers un paysage, qu'il soit héroïque, sublime ou d'une souffrance évidente, mais il y a de cela. C'est un musée qui se trouve à la Fondation Kröller-Müller, ici. Alors, il va tout de même rencontrer des personnages, il n'y a pas que les natures mortes ou bien les paysages. Je pense au portrait de Madame Ginoux, celui, il y en a plusieurs, mais celui-ci est au Metropolitan de New York, il fait 90 sur 72, on est dans cette période de 1888, et il est plus connu sous le nom de l'Arlésienne. Alors, je suis toujours très content quand je vois les New-Yorkais s'arrêter devant ce genre de portrait et s'extasier devant les Arlésiennes. Je me dis, ben quand même, quand la France s'exporte, on s'exporte bien. Hein, c'est vrai que vous savez, hein, quand vous êtes à l'étranger, enfin, on ramasse quand même pas mal, hein, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, quand vous êtes européen et français en plus, alors là, on en entend des... Mais bon, quand vous voyez... ces Américains passaient devant un Monet, devant un Van Gogh, racontant les paysages du sud de la France, montrant ces personnages qui ont une sorte d'éternité comme ça. C'est vrai que ça nous fait plaisir. Et c'est quelque chose qui est important pour notre culture. Hein. Alors, je dirais qu'ici, ce qui est le plus important, peut-être, c'est ce regard mélancolique. Regardez ce beau regard où la sclérotique, d'ailleurs, donc la sclérotique, la partie blanche de l'œil, devient verte, devient couleur anis, alors que le bord de l'œil et la paupière viennent se violacer comme, une sorte de choix, de complémentarité pour aller chercher ce rouge dans le violacé qui fait briller le vert de l'œil. Et il a bien compris, alors il l'associe à la lecture. Regardez, même le livre rouge ici semble tourmenté, hein, dans le travail ici de Vincent, ou la table même. Mais comme des artistes qui ont précédé son travail, je pense au romantique, ce regard mélancolique est extrêmement important parce que l'artiste travaille la façon, si vous voulez, d'utiliser le non seulement l'espace pictural, mais comment une image entre en relation avec vous. Et là, il n'y a pas tellement de possibilités. Soit vous êtes dans un type iconique, c'est-à-dire, et je vous en ai déjà parlé, ces vierges anciennes au regard qui vous transperce et vous dématérialise, c'est l'icône qui s'impose finalement à vous sans pour autant se donner à l'espace ou au temps. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre forme de peinture qui se développe dès le Quattrocento, c'est les points de fuite, c'est toute cette peinture de la Renaissance et qui encore court à cette époque-là, où vous êtes invité à entrer dans l'espace pictural par toutes les techniques possibles et imaginables. Le meilleur exemple, c'est la Joconde qui vous fait de l'œil pour vous inviter, vous voyez, dans cet espace pictural. Le regard mélancolique, l'œil part, mais file aussi bien à l'intérieur de la personne qu'à l'extérieur d'elle-même. On ne sait plus si nous sommes sur du convexe ou du concave. Je dirais que ce que la mélancolie a mis en place depuis très longtemps dans l'histoire de l'art et qui est repris par Vincent Van Gogh, c'est ce que Cézanne mettra en place avec sa crise visuelle sur le plan pictural. Une montagne telle que la Sainte-Victoire chez Cézanne, où on ne sait plus si les ombres creusent, si les parties lumineuses bombent, ou si c'est le contraire, si les prunes sourds sont sur les parties plus anisées ou les bleus ciel. Tout est renversé dans le monde pictural. C'est la même chose dans la mélancolie. On ne sait plus où court le regard. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et de la même façon, vous savez, hein, on peut une peur, on sait bien ce que c'est, on aime, on n'aime pas, on a peur, tous ces sentiments ont la possibilité de se rencontrer lorsqu'ils sont projetés sur des objets. Nous avons la chance d'avoir des objets pour rencontrer nos différentes émotions. Malheureusement, la mélancolie, c'est une projection qui ne rencontre jamais d'objet, jamais d'écran, qui ne sait jamais pourquoi elle est mélancolique. Si vous savez pourquoi vous êtes mélancolique, vous n'êtes plus mélancolique. C'est la pire des vacheries qui soit au monde que la mélancolie, parce que vous ne pouvez pas la nommer. Elle est indéfinissable, insondable même. Et pourtant, vous voyez qu'elle devient un agent extrêmement important pour l'étude picturale et le travail du peintre. Ce n'est plus tant sur les muscles paussiers de la colère sourde d'un visage paysan, mais c'est cette mélancolie maintenant qui va lui servir pour travailler ce tableau. Alors, il y a aussi, lorsque Gauguin est dans le coin, des sorties, les bars, les cafés, alors là, il faut bien voir que tout les oppose. Gauguin, c'est plutôt un beau mec, plutôt amateur de femmes, et elle lui rendait bien. Vincent, c'est une sorte de mystique assez isolé qui était vraiment le contrepoint parfait de son compère, et pourtant ils se sont retrouvés, hein, sur certaines œuvres, sur certains sujets. Mais disons que cette complémentarité a dû être très active par rapport à leur création, mais également assez difficile à vivre. Déjà, vivre avec un artiste, c'est pas facile, mais alors quand vous en avez deux à la maison, vous imaginez un peu, partageant les mêmes lieux, cette fameuse chambre jaune là, qui a tant été représentée, ça a dû être un moment très très difficile. Jusqu'à ce, vous le savez, Gauguin écrira à Vincent Van Gogh qu'un soir il est sorti de chez lui et que son regard a dû être bien puissant parce qu'il a vu briller la lame dans la main de Vincent et qu'à ce moment-là, il pensait que Vincent allait l'attaquer. Et Vincent s'est retourné en direction de leur maison et à ce moment-là, c'est le moment où il va se trancher l'oreille et dans un geste assez incroyable, certains disent qu'il va aller l'offrir à une prostituée. Mais ça, c'est assez difficile. Alors d'autres pensent qu'il aurait eu des graves crises d'acouphènes, qui serait d'ailleurs une façon, quelque chose qui aurait accompagné ces différents symptômes dus à son syndrome de Pica et autres, et qu'il était tellement perturbé que ça provoquait une sorte de démence. Et Paul Gauguin va le laisser parce qu'il y avait dans leur projet, et surtout dans le projet de Vincent, l'envie de faire une communauté d'artistes du Sud. On va voir d'ailleurs si Marseille va relever le défi là, pour son exposition de 2013 avec le Grand Atelier du Sud. Mais ça, c'est un terme que Marseille a utilisé et a chippé à Vincent Van Gogh. C'est Vincent Van Gogh qui rêve de ce Grand Atelier du Sud dont il aurait voulu finalement proposer à Paul Gauguin de faire probablement descendre l'école de Pont-Aven, tout ce monde en direction d'Arles. Il a toujours cru au groupe tout en étant isolé. Personne ne lui a jamais fait confiance. Personne ne l'a véritablement suivi. Alors, c'est le Café de Nuit de 1888. C'est une œuvre qui est à New Haven, dans le Connecticut. Là encore, vous voyez toujours ce rapport très vibratoire hein, à la lumière. Et puis, cette magnifique, les terrasses de café le soir sur la place du Forum au musée Kröller-Müller. C'est vraiment là aussi hein, un intérêt pour ces jeux de lumière, qu'ils soient sous l'effet de cette lumière électrique, qui après tout, dans ce 19e siècle, n'est pas si ancienne. Et puis de l'autre côté, pour ces nuits étoilées, la lumière de l'astre face à une lumière inventée, finalement. Et ça donne de très beaux rendus, dont vous le savez, les deux plus célèbres sont les nuits que l'on trouve, les nuits de Saint-Rémy, celle qui se trouve à Orsay et celle qui se trouve au MoMA de New York, qui datent toutes les deux de septembre 88 et de juin 89. Je vous fais peut-être un plus gros plan sur la façon de représenter ces taches lumineuses. Alors c'est vrai que quand on regarde les étoiles, elles sont roses, elles sont vertes, elles sont bleues, il y a des halos de toutes les couleurs. Et ce peintre aux yeux extrêmement ouverts nous rappelle combien nous passons vite devant ces beautés, combien nous n'avons plus le temps, nous ne prenons plus le temps de regarder les étoiles. Alors bien sûr, il ne faut pas être à Lyon pour regarder les étoiles, mais je pense que de temps en temps, vous, dans votre belle région, vous pouvez encore en observer quelques-unes. On a un mathématicien fou qui me fait des signes. Que vous arrive-t-il? Non, c'est non? Ah bon? Alors ça, c'est embêtant. Si on ne voit plus une étoile en Bourgogne, on est foutu. Déjà que vous n'avez plus mon amie Lameloise, ça fait beaucoup d'étoiles en moins en Bourgogne. Hein. Va falloir faire quelque chose. Hein. Alors, regardez aussi comment presque comme un Monet, presque comme un Monet, il va représenter ces passants qui, seuls là sur la grève, sont en train de participer au miroitement de l'eau, où est le sol, où est l'eau, où est le ciel. Il y a quelque chose tout d'un coup de presque cosmique et de sentimental à la fois. Et c'est ce qui est beau, c'est que finalement on se sent à la fois proche et dépassé hein, par ce genre de vue. Alors ça, en même temps, il y a un vrai paysagiste, hein, parce que si vous connaissez là, cette affaire-là, voilà ce que ça représente. Alors, l'autre la plus célèbre, alors celle-ci est extrêmement célèbre, de juin 89, 73 sur 92, et alors les peupliers, les... Merci. Voilà, ça y est, j'ai bien compris. Vous me ferez passer l'interrogation la prochaine fois si je repère bien les cyprès. Alors, le cyprès, c'est, comme je vous ai parlé du martin pêcheur, le cyprès, c'est un... Alors, qu'est-ce qu'on dit du cyprès ? On dit que la graine du cyprès, dans des cultures asiatiques, permet de détecter l'or, par exemple. C'est un arbre qui est... complètement instrumentalisé dans la vie et dans les symboles alchimiques. On dit également que c'est le cyprès qui est un arbre des enfers. Alors, avant d'être un arbre des cimetières pour des raisons très fonctionnelles, c'est-à-dire par rapport au vent, il a exprimé l'âme et dans l'orphisme. Par exemple, qui est une religion de la fin de l'Antiquité, quand vous étiez un adepte et un initié de l'orphisme, vous descendiez aux enfers et vous aviez à boire dans une fontaine, une source près d'un cyprès blanc, où vous disiez que vous étiez le fils de la terre, le fils du ciel, et que vous veniez boire aux eaux de mémoire. Donc il y avait tout un rituel où le cyprès était associé. Et je dirais que de la même façon que tout à l'heure, les arbres morts hein, dans le paysage enflammé, il y a une sinuosité qui apparaît sur le cyprès, alors que d'habitude le cyprès a cette sorte de force très rectiligne, ce qui scande complètement de façon très musicale. D'ailleurs, ces beaux paysages de Toscane, quand vous passez du côté de Colle Valdès, quand vous allez de Sienne, je ne sais pas, du côté de Volterra ou de San Gimignano ou autre, il y a vraiment ces très beaux paysages avec cette force très verticale. Lui va la rendre complètement sinueuse. Et puis il y a l'église qui est ici, qui est donc là encore, comme il y avait tout à l'heure un jeu entre l'électricité et la lumière des étoiles, il y a encore, je dirais, le clocher et le cyprès qui rivalisent ici. Et il y a également des mouvements, il n'y a pas d'autre. Une musique faite pour l'œil dans cette nuit assez incroyable. Et c'est vrai que quand on prend le temps, le monde se met à ressembler à du Van Gogh, mais il nous faut effectivement du temps et pas trop de lumière autour de nous. Mais vraiment, quelle belle sensibilité il nous a laissé ici. Alors voilà la fameuse chambre. Regardez, écoutez, rien que le sol, c'est un chef-d'œuvre. Hein, quand on pense tout à l'heure un peu aux souliers, hein, on retrouve un peu ces textures, on retrouve ces façons de faire et cette façon... avec cet empattement assez gras, assez grossier, mais volontaire, avec les planches que l'on voit apparaître dessous, avec cette usure également, cette perspective aussi qui allonge la salle, la chambre, et qui nous invite dans cette sorte de partie lumineuse, mais quand même confinée. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez... Alors, il y a quelques autoportraits au mur, des paysages, des gravures, une vitre enflammée probablement par la lumière du jour. Bon, c'est un bel héritage qu'il nous laisse ici de cette période. Alors, il y a plusieurs versions, hein. Il y en a à Amsterdam, il y en a une autre à Chicago et une troisième version, elle date. Non, la première date de 88, les deux autres datent de 1989. Par contre, elles font les deux premières le même format, 72 sur 90. La troisième, celle d'Orsay, est un peu plus petite. Voilà celle d'Orsay. Alors, il y a peu de choses qui changent. Peut-être les, voyez, les portraits dans le haut et le paysage. Ça, c'est un très bon exercice pour faire trouver les 7 erreurs ou les 10 erreurs. Au plus petit, vous les mettez devant des Van Gogh. C'est au moins un jeu intelligent pour initier les plus petits à l'histoire de l'art. Alors, on retrouve ce regard vert et rouge, et puis cette peau, voyez, qui est marquée par les accidents. Mais après tout, il a raison, hein. Moi, quand je vois la dernière fois que je suis allé au musée, au Grand Palais, voir une exposition de Renoir, Renoir a une telle faculté pour nous montrer les transparences de la chair, j'ai tellement été préparé par Renoir que quand je suis ressorti, il a fallu que je m'assieds un moment dans un café parce que je voyais tout le monde clignoter en vert et rouge. C'était terrible. Je voyais les gens transparents. Enfin, la peinture arrive à vous donner une autre version du monde, hein. C'est quand même terrible. Et si on regarde un peu longtemps, je dirais, les visages de Van Gogh et les autoportraits, eh bien, nous verrons combien nos visages sont de vrais arcs-en-ciel. Mais dans notre distraction ou notre urgence, on préfère ne voir que du rose. Mais le peintre ne se contente pas du rose. Le peintre a besoin d'autre chose. Et alors, on voit aussi les influences des estampes japonisantes sur le côté, ici, et puis ce fameux pansement avec cette oreille coupée. Alors, moi, je me dis que, comme c'est un garçon quand même qui est pétri et de symboles et d'interrogations religieuses, je ne peux pas m'empêcher de penser que le seul passage où l'on voit une oreille coupée dans la Bible, c'est le moment où Pierre tranche l'oreille du centurion et que le Christ répare à ce moment-là ce geste terrible sur les jardins de Gethsémani avant l'arrestation, hein, dans le jardin des oliviers. Faut-il y voir l'attente d'un miracle? Faut-il y voir le signe de l'erreur? Je ne sais pas, mais enfin, cette histoire d'oreille coupée, quand même, il y a quelque chose d'assez étonnant. Je n'arrive pas à me résoudre que ce ne soit qu'un simple geste de folie. Je pense qu'il y a toujours moyen de décortiquer. Quand on voit la folie chez le poète, il faut aller plus loin. Peut-être qu'un jour nous comprendrons ce que Van Gogh a voulu nous faire passer comme violent et puissant message ici. Alors, c'est une. Est-ce que c'est des péchés? Non, qu'est-ce que c'est ça? Amande? C'est de l'amande? Oui, c'est l'amandier. Alors, l'amandier, c'est un arbre intéressant parce qu'il a été utilisé dans les différentes civilisations qui ont connu l'image tout autour de la Méditerranée. C'est le premier arbre qui fleurit au printemps et il est, si vous voulez, le symbole de l'énergie, c'est le renouvellement de l'énergie. C'est le cycle, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a, sur vos très beaux tympans d'église romane, des mandorles autour des Christs. C'est le symbole de l'amande qui est en fait le fruit de la lumière nouvelle au printemps. Alors bon, je veux bien les explications de certains de mes confrères un peu plus, enfin, des interprétations un peu récentes, un peu freudiennes, nous montrant ça comme l'intimité du corps féminin. Mais enfin bon, s'ils le veulent, hein, là où, enfin, après tout, l'amande a toujours servi, il est vrai, il faut le reconnaître pour eux, a toujours servi à codifier la lumière Et même dans la poésie arabe ou la poésie latine, une certaine, effectivement, un certain érotisme se dégage de l'amande. Mais enfin bon, de là à le voir sur les tympans romans, je ne sais pas. Mais enfin, c'est sûr, vous ne mangerez plus des dragées de la même façon. Ça c'est sûr, vous aurez ça en tête. Mais c'est ce qui fait la complexité du vivant. Après tout, que ce soit un symbole de vie, ou que ce soit un symbole sucré, ou que ce soit un symbole de lumière, après tout, les poètes ont des voies et des chemins différents pour nous appeler à regarder le vivant, les cycles. Et c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant de voir que là encore, il est sensible à ce genre de symboles. Et puis, il y a surtout la belle et grande influence du monde japonais. Si je vous ai mis ça après l'estampe, c'est pour vous montrer combien lui aussi, comme un Manet ou comme d'autres, est intéressé par l'influence japonaise. Alors, regardons ces... Ah oui, c'est magnifique, hein, ces œuvres, c'est tout le travail qu'il a fait du côté d'Arles avec ses iris au premier plan, iris auxquels il était particulièrement sensible. Celle-ci est au musée Van Gogh alors que la précédente était au musée d'Amsterdam. L'iris, au point de vue du symbole, est un symbole comme le lys, c'est une fleur mariale. C'est une des fleurs qu'on retrouve principalement, l'iris lys et encolie. Lys et iris représentent plutôt l'annonce, alors que l'encolie représente le symbole de la fleur de l'Esprit-Saint. Parce que c'est la suspension de la capsule, si vous voulez, exprime la descente de l'Esprit-Saint. Alors, on a quelques... beau portrait dans ces années 88, c'est Agostina Segatori, c'est la propriétaire du Café du Tambourin, c'est une œuvre qui se trouve au musée Amsterdam, et on retrouve encore la mélancolie. Vous voyez que là encore, d'ailleurs, il y a la cigarette, il y a la bière, il y a un sentiment d'isolement, mais regardez les touches incroyables ici. Quand vous pensez que nous sommes en 1888, nous fêtons déjà le 160e anniversaire de sa naissance. C'est un peintre incroyablement moderne. Puis le Zouave, alors lui aussi, il avait une tendance à choisir ses personnages. On a le Zouave, on a le facteur là, Rollin, on a la famille de Rollin, Armand Rollin, on a toute une... ses proches. Alors là, ce jeune homme, c'est le fils de Joseph Rollin, Armand Roulin, il est à Essen, celui-ci. Beau travail, là aussi, vous voyez, hein, beau visage de jeune homme, on le sent quitter depuis peu l'adolescence, il a encore, je dirais, de l'adolescence, certains traits pulpeux, pourrait-on dire, la bouche, le regard, enfin, il y a quelque chose d'assez séduisant dans ce portrait. Et alors, on a toute la série du célèbre Joseph Rollin. Alors là, on en a, il y a celui de Boston, il y a celui de la Fondation Marion, à la Fondation Barnes à Philadelphie. Bon, c'est pas rien, parce que je sais pas, ouais, regardez, hein, là, c'est... Ah oui, d'accord, vous en prenez vraiment plein la figure, là, parce que je m'étais pas retourné encore, mais c'est vrai que sur l'écran, là, c'est... Oui, c'est physique, hein, c'est... Vous allez ressortir, vous allez voir tout Chalon clignoter, c'est bien, c'est... vous allez vous croire à Mexico, finalement. Donc, ce qui est beau ici, me semble-t-il, c'est cette volonté de faire une fusion entre l'ornemental de la tapisserie, très végétal, et puis l'être humain qui, lui aussi, passe par le prisme de ce regard, comme si la barbe devenait décorative, comme s'il y avait une fusion entre ces deux mondes, et en même temps, ce regard presque iconique, comme si un postier était représenté comme on représentait les saints personnages autrefois, c'est-à-dire, voyez, qu'il vous transperce de son regard, de son autorité, et pratiquement nous dématérialise. On n'a pas de prise, si vous voulez, sur ce regard-là. Et c'est ce qui fait aussi toute l'intelligence de ces regards de celui-ci. Il est magnifique, hein. Ça, c'est du postier, hein. Bon, le postier, c'est aussi toute la communication qui permet aux êtres de... Il est loin de sa famille, il est loin des siens, il est loin de Théo, il est seul. Le postier, c'est celui qui est le saint, parce que c'est celui qui vous amène des nouvelles. Il n'y a pas si longtemps encore, dans le haut Moyen-Âge ou bien dans d'autres civilisations, où on peut vous dire on vous aime comme le facteur. Bon, la première fois qu'on m'a dit ça, qu'on m'aimait comme le facteur, je vous remercie, mais parce que ça veut dire que vous apportez des nouvelles, vous êtes celui qui tisse un lien avec l'autre. Et puis il y a bien sûr Madame Roulin. Alors là aussi, Madame Roulin, qui a un regard... Oui, je ne me suis pas attardé sur la poitrine, mais enfin, on aurait pu, effectivement, enfin, on n'a pas... Mais regardez cette énergie, hein, pour peindre, que ce soit le... Puis toutes ces... Je pense, vous qui avez l'habitude de ces décorations végétales dans le monde roman, avec cette rencontre avec la figure, il y aurait toute une étude à faire, hein, sur la figure de l'être humain et le végétal, par exemple chez Van Gogh. Il y a quelque chose de très très beau ici. Puis alors, étonnamment, on a de magnifiques un crabe, oui, un crabe. Alors là, c'est un crabe que j'oserais dire un peu kafkaïen, hein. C'est pas tant le côté crabe qui nous intéresse que le fait qu'il soit retourné, et on se dit que le pauvre, on a presque envie de lui donner une petite tape sur la carapace pour le remettre à l'endroit. Alors qu'est-ce que le peintre exprime à travers ce crabe? Bon, je sais pas, en sachant que celui-ci s'appelle la berceuse. Il est fait à peu près à la même époque. Bon, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du retournement, qui devient un enfermement, et il a dû se ressentir dans cette carapace. Après tout, on a des spécialistes de l'enfance qui, par la suite, nous ont développé les complexes du homard et autres. La carapace a bien servi la pédopsychologie, la pédopsychiatrie et autres. Pourquoi Vincent ne pourrait pas projeter finalement sa sensibilité à travers ce crabe renversé? En tout cas, il arrive, moi, à me toucher. Et en plus, je suis cancer. Il y a des cancers parmi vous? Ce beau champ de blé, alors il y en aura plusieurs, avec ce cyprès, là encore, hein, quel... Je suis resté, mais en admiration devant ce tableau métropolitain de New York, 1889. Je crois que j'avais rarement vu dans une peinture autant d'intelligence, autant de poésie, autant de force, de peinture combative également, mais en même temps élégante. C'est vrai que c'est un très grand maître. Et vous voyez, je viens d'une étude sur l'art précolombien, et je finissais par dire à des confrères que j'ai rencontrés là-bas, puisque je faisais un voyage d'études, mais finalement, toute cette façon de remplir dans l'art aztèque, dans l'art maya, je leur ai dit, écoutez, moi ça me fait penser à Léonard de Vinci. Alors ils m'ont regardé en me disant, bon, là vous nous surprenez un peu. J'ai dit oui, parce que Léonard de Vinci avait une obsession, c'était de peindre l'air. et ce qui finalement agissait, si vous voulez, dans l'interstice des êtres. Et c'est vrai que ces sculptures que l'on peut voir avec toute cette façon de remplir, avec ces plumes, ces végétaux qui forment leur tiare, leur couronne, qui vont l'une vers l'autre, qui donnent du lien entre les personnages, est une façon de sculpter l'air. Et je crois qu'un de ceux qui a réussi non seulement à peindre et à sculpter l'air, c'est Van Gogh. Aussi bien dans cette façon paysagiste de parler d'un élément, mais de sculpter et de peindre l'air dans cette façon que Van Gogh nous tend toujours. Si ses mains avaient une âme, si son âme avait une main, pardon, eh bien elle serait sans cesse en train de nous la tendre. Et je crois que c'est ça sa façon de sculpter l'air ou de peindre l'air, c'est qu'il y a toujours une sorte d'onde, de vibration qui vient jusqu'à notre œil et qui nous implique. On ne peut pas se sentir en dehors d'un tableau de Van Gogh. On est toujours à la fois devant un sublime que l'on sait appartenir à tous et nous sommes toujours convoqués individuellement. Et s'il y en a bien un qui a su, de par son tourment, travailler sur l'œil, travailler grâce à l'œil sur le groupe et sur l'individu, je pense qu'effectivement, c'est Van Gogh. Bon, autant vous dire que c'est pas la peine de me demander si j'aime Van Gogh. Hein, parce que c'est... Alors, voyez par exemple, puisque nous parlions des symboles, que ce soit les cyprès, que ce soit les martins pêcheurs, que ce soit ici un papillon, alors j'ai pris la liberté de vous apporter, vous voyez, c'est le papillon qui s'appelle le sphinx à tête de mort, puisque sur le papillon, vous voyez, on voit comme une tête de mort. Alors je vous rappelle que le papillon, on le voit ici, le papillon symbolise l'âme depuis la nuit des temps, en peinture, hein, la psyché, c'est vraiment l'origine même du terme de psyché. Alors aller choisir un papillon qui a la réputation d'avoir une tête de mort gravée finalement, installée sur les ailes, on comprend à quel point la mort est un thème extrêmement important dans l'univers de Vincent Van Gogh. Alors, il y a, je suis obligé d'aller un peu plus vite, si vous me permettez, il est au musée d'Amsterdam et date de 89, le papillon. Ici, vous avez le sentier à Saint-Rémy, il a fait beaucoup de paysages jusqu'à ce qu'en 89, eh bien, il y a, alors on a un paysage ici de culture avec les maisons et des laboureurs qu'on voit dans le fond, alors il faut aller le chercher, mais je pense que vous allez le... Vous voyez ? Mais là encore, hein, on sent très bien que l'œil du peintre arrive à prendre une distance incroyable. Moi, je ne comprends pas comment ils arrivent à 20 cm d'une toile à avoir cette distance nécessaire. Il nous faut des mètres et des mètres de recul pour voir ce qu'ils arrivent à voir. Et c'est ce qui est troublant, c'est que l'espace et le temps prend un sens complètement différent dans l'œil du peintre. Et ça, ça devient troublant. Nous qui avons toujours besoin d'avoir le nez collé au mur, comment eux, le nez sur leur toile ou les mains sur leur toile, arrivent à prendre une telle distance ? Et y compris, et c'est peut-être le thème que je ne vous traiterai pas, parce que vous l'avez vu traiter de très nombreuses fois, j'en suis sûr, le thème de l'autoportrait. Ils ne se ressemblent jamais. Vincent ne se ressemble pas à travers ses autoportraits. Comme les grands, comme Rembrandt. Et je vous avais dit qu'il n'y a pas d'autoportrait, hein. Il n'y a que des portraits de soi-même. C'est pas la même chose, hein. C'est que cette distance qu'il peut prendre par rapport à un paysage, il le prend jusqu'à sa propre personne. Alors il est possible que des fois, dans cette façon effectivement de s'écarter de soi-même, eh bien, il y a des choses qui nous paraissent à nous déraisonnables ou qui nous paraissent à nous, eh bien, proches d'une certaine expression de la folie. Regardez ça, c'est... Il sera initié par Pissarro à une expérience du pointillisme. que ce soit serein, que ce soit... Il y a ce divisionnisme qui est travaillé par les post-impressionnismes, et lui aussi est à cheval entre l'expressionnisme et le post-impressionnisme. Mais regardez cette incroyable modernité, je pense que ça aurait fait jaillir de plaisir un Tombly, un Sahil Tombly ou un autre peintre contemporain. C'est vraiment aussi cette patience méticuleuse pour traduire finalement le réel. Alors, tous ces beaux paysages ou les oliviers également, qui me semblent être très très proches des, si vous voulez bien, du travail des arbres tourmentés dont on parlait tout à l'heure. Après tout, l'olive est le fruit aussi de ce soleil. L'olive est un symbole important puisqu'elle donne l'huile, que l'huile donne la lumière, ou bien servait à conserver les viandes autrefois et conserver même la chair. Enfin, il y a quelque chose de très fort dans l'olivier, tout dans le pourtour méditerranéen. Et je trouve que cette force symbolique associée au tourment, finalement, du tronc, reprenant quelque part une sorte de dialogue avec le paysage et les nus dans le ciel, il y a vraiment un art total. Alors là, les spécialistes des arbres, vous allez vous faire plaisir. Non ? Ça ne vous inspire pas, là ? Des arbres fruitiers, ah ben on est sur une bonne piste là. Des pêchers, oui. Oui, oui, des pêchers. Plutôt pêchers. Alors, on a là aussi le divisionnisme dont je vous parlais. Regardez cette façon incroyable de verticaliser avec l'arbre et de donner cette grande horizontale sur le... Sur le dessus, c'est très beau. Et puis, les iris, alors cette œuvre est en Californie, au musée de Malibu. Elle date de 87-88. Et là, c'est une œuvre qui est restée célèbre parce que c'est la première qu'il a réalisée lors de son enfermement à Saint-Paul-de-Mozol. Quand il était... au monastère de Saint-Paul-de-Mozol à Saint-Rémy en Provence. C'est un asile qui était dans un monastère. Oui, bien sûr, ils sont toujours. Oui, c'est toujours. Et à sa demande, il a été interné, comme d'autres peintres, d'ailleurs. Ça a été le cas d'Hugo van der Goes, un autre, un flamand célèbre dont j'ai eu l'occasion peut-être de vous parler. Lui, il est devenu frère convert. Enfin, ça veut tout dire. C'était une époque où les abbayes acceptaient aussi... cette aide, mais qu'elle surveillait finalement. Donc là, on sait que Van Gogh a peint particulièrement, mais alors, vous voyez, sous l'effet de l'enfermement, le cadrage se fait plus resserré, il y a une pression, une gesticulation, là encore, de ce travail, et c'est pas rien. S'il fallait faire un sujet sur la médecine et l'art, il est évident que Van Gogh serait un sujet tout à fait intéressant à analyser. Le japonisme dont je vous parlais tout à l'heure, l'aspect asiatique avec ses branches d'amandier du musée d'Amsterdam montre dans la réserve du ciel, dans les fleurs, et puis surtout comme un peu comme les orchidées, vous savez, ces fleurs. J'avais une espèce de truc chez moi là qui était mort depuis je ne sais combien de temps. Et alors là, c'est à vous faire croire en Dieu, cette affaire-là. Parce qu'alors, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, au bout de 4 ans, il y a une fleur qui est sortie. Bon, enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Il y a du genre dans l'orchidée. Il y a de la mort, il y a de la vie. Dans l'amandier, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui, malgré la rudesse, l'aspect un peu sec de la branche, tout d'un coup, jaillit avec cette fleur étincelante, incroyable. Et... bon, c'est sa façon à lui de parler des circulations, de parler des cycles. C'est sa façon à lui de faire une petite théologie de la nature, finalement. Alors, vous le savez, il va se déplacer de la période d'Arles à la période de Saint-Rémy. Après Saint-Rémy, il va partir en direction de cette belle région près de Paris, d'Auvers-sur-Oise. Et à Auvers-sur-Oise, il va être sous la surveillance du médecin Gachet, Gachet qui avait soigné Cézanne, qui avait soigné Pissarro, qui avait soigné la mère de Pissarro, qui avait soigné de nombreux impressionnistes et qui va également s'occuper de Vincent Van Gogh. Alors, ce sont ici, c'est les chaumes de Cordeville, les chaumes du côté de Moncel, donc cette région d'Auvers-sur-Oise, et c'est une œuvre qui est au musée d'Orsay et qui date cette fois de 1890. Les chaumes de Grès à Chaponval, c'est un hameau de Auvers-sur-Oise qui est au Kunsthaus de Zurich, où je vais d'ailleurs bientôt voir certaines œuvres, parce que très belles œuvres du côté de la Suisse, que ce soit bien sûr du côté de Genève, du côté de Zurich ou d'autres, il y a des collections assez extraordinaires et que d'ailleurs je vous recommande chaleureusement. Vous avez ici toujours dans cette fascinante, si ce sont les paysages qui l'ont beaucoup accompagné dans sa créativité du côté d'Arles, en Arles, on a l'impression qu'Auvers-sur-Oise, il y a cette recherche autour des maisons, le construit, le bâti, l'intéresse particulièrement. Et il va s'intéresser également au couvrement des maisons, la tuile, le chaume, comme s'il y avait des natures singulières du temps qui passent aussi à travers ces couvrements. Il y a des formes rectangulaires, il y a de la géométrie au sein même de cette expérience très, très organique qu'il nous montre. Tout vibre, toutes les formes du ciel jusqu'à la terre sont effectivement comme des sortes de petites réalités végétales. Il y a quelque chose de très organique dans l'œil de Vincent Van Gogh, mais en même temps, il met au cœur de l'organique cette organisation qu'est la maison, qu'est la demeure, qu'est la géométrie, une base, si vous voulez. C'est un pathos extraordinaire qu'il nous réserve encore sur la fin de cette période. Regardez sa scène. Alors, bien sûr qu'on a les célèbres mules de foin de Monet ou de Millet, parce que avant les célèbres tableaux de Monet, il y a Millet qui a travaillé sur le thème. Celui-ci est à Otterlo, à la fondation Kröller-Müller, en Hollande, 64/52, une œuvre de 1890, et on voit apparaître les corbeaux. Là aussi, c'est un thème qui va devenir, avec l'ombre également, qui est un magnifique travail. Puis bon, on a le professeur Gachet. Vous voyez que c'est pas pour rien si Gachet porte une digitale. Vous voyez, cette fleur, c'est la digitale avec laquelle il soignait les tourments de son patient. Et Gachet, homme de science, devient lui aussi mélancolique. Regardez ce regard quand le médecin devient poète, là, finalement. Bon, peut-être que Vincent avait un œil aussi sur Mademoiselle Gachet, mais sur Marguerite Gachet. Mais bon, là, c'est la jeune fille perdue au milieu de cette excitation organique, ce tourment végétal. Ça devient du tourment, cette végétation. Je dirais que la végétation se met à vibrer de la même façon que sa ligne vibrait déjà dans le borinage dans sa jeunesse. Et puis le monde s'enflamme, le monde devient de plus en plus inconstant, il y a toute cette vibration qui se fait sur les chemins d'Auvers ici, comme ce travail du village, la rue du village et des figures a ouvert, il est au musée de Saint-Louis en Louisiane. Celui-ci, vous le connaissez. Alors, on retrouve l'isolement de ce personnage, les chemins qui se séparent, nous sommes à une sorte de bifurcation. Et puis, la solidité de l'architecture perd de sa consistance. Elle devient... on n'est pas tout à fait dans la persistance de la mémoire avec les montres molles de Dali, mais enfin, vous voyez que l'œil affaibli ou l'œil de plus en plus poète est en train effectivement de complètement amollir les contours pour ne conserver que des couleurs primaires et complémentaires, ce bleu, cet orangé qui ravive complètement la placidité. C'est la couleur qui tient l'édifice finalement. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur cette façon de montrer une couleur qui devient l'épine dorsale finalement et qui devient l'épine de ce travail. Quant au bleu dans le haut du ciel, eh bien, c'est vraiment un bleu, là encore, tout à fait remarquable. Alors, nous sommes dans les tout derniers tableaux, puisque nous sommes dans l'été 90, nous sommes en juillet 90, avec ce chant sous un ciel d'orage, qui est à Amsterdam, au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui, je vous rappelle, réouvre ses portes là dans quelques semaines, puisque ça fait plus de 10 ans qu'il est en restauration et qu'il n'ouvre que par des sections et des tranches bien ciblées. Donc c'est vrai que c'est une attente aussi que de voir ce grand musée réouvrir ses portes. Et c'est le thème qui sera, je dirais, un thème récurrent. Alors il y a quand même un thème juste avant son décès. C'est le thème de la résurrection de Lazare. Et on voit ici, vous voyez, regardez, Marthe et Marie qui trouvent un Lazare complètement décontextualisé. D'habitude, Lazare est à droite, debout, emmailloté dans son linceul, le Christ est à gauche. Ici, le Christ n'est pas là. Et Lazare est adossé à une botte de foin. Et ça, c'est quelque chose quand même de tout à fait particulier, d'avoir décontextualisé l'écriture biblique et de l'avoir finalement placé là où il est. C'est le ici et maintenant finalement. Et regardez comment il arrive encore à donner cette fougue, comment Lazare est représenté. Je vous rappelle que nous sommes en 1890, hein. On comprend comment un poète de sa trempe est capable d'émouvoir encore nos plus jeunes plasticiens. Et bien sûr, il y a ce célèbre tableau qui n'est plus une bifurcation, mais une trifurcation. Faut-il voir un symbole terrible de cette terre rouge associée au vert qui essaye de se faire son chemin dans ce champ de blé avec ses corbeaux qui volent bien bas, puisque vous le savez, c'est dans ce même champ qu'il se tirera une balle. Alors il ne va pas mourir tout de suite, puisqu'il y a alors il y a d'autres hypothèses, hein, puisque aujourd'hui il y a une autre piste qui est assez séduisante d'ailleurs, mais qui nous fait revoir complètement la fin de Van Gogh, puisque certaines jeunes personne, deux garçons qui à l'époque, bon bah c'était des adolescents un peu perturbés, s'amusaient à l'enquiquiner pas mal quand il était en état d'ébriété ou quand il était, et un peu vous savez comme vous avez des gens qui sont déments, les enfants qui lui courent après, qui l'embêtent, on a tous malheureusement vu ça, bon bah apparemment Van Gogh a fait les frais un peu de ses plaisanteries de potache, et certains un aurait fait la confidence, mais bien plus tard, alors qu'il était un homme mature, qu'il jouait avec une arme avec un de ses amis et qu'il aurait tiré sans vouloir blesser, mais qu'il aurait tiré et qu'il aurait effectivement blessé ce peintre un peu fou, quoi. Et si jamais c'est la vérité, si cette thèse qui est travaillée encore aujourd'hui était la vérité, Van Gogh n'en a jamais dit mot. C'est-à-dire, c'est un homme qui aurait pu être blessé par des enfants qui l'ont quand même particulièrement malmené et sans pour autant les nommer, ou bien sans pour autant, puisqu'il a repris connaissance, hein. Il a été porté jusque chez Gachet. Son frère Théo a eu le temps de venir jusqu'à Auvers-sur-Oise. Il a eu le temps, effectivement, eh bien, de voir son frère. Et ce qui est fou, alors au point de vue de la thèse, on ne sait pas si c'est un accident, si c'est un suicide. La thèse du suicide reste celle qui est toujours aujourd'hui la plus commentée. Mais ce qui me paraît fou, c'est que quelques mois plus tard, alors que Théo Van Gogh est l'homme père de famille, avec cette carrière incroyable, c'est le pilier de la famille, se donne la mort, se suicide. Alors que rien, encore Van Gogh, Vincent, est tellement fragile, je dirais, on sent cette souffrance tout au long de sa carrière, mais rien ne laisse penser que Théo puisse se donner la mort. Qu'ont-ils pu se dire? Qu'y a-t-il pu se passer dans cet été 1890 pour que la vie aussi ordonnée, aussi bourgeoise, aussi réglementée de cet homme tout d'un coup chancelle? Est-ce que finalement ce n'était pas Vincent qui était le pivot de la vie de Théo? Qui est le sauveteur? Où se trouve la bouée dans les sauvetages? Rien n'est très simple et vous le savez bien. Merci de votre attention, à très bientôt.